SBS Radio.
Les grands titres, d'abord, le Premier ministre et le chef de l'opposition fédérale en Australie sont à Sydney pour le lancement officiel de la campagne des élections de la Nouvelle-Galles du Sud. En France, acte 17 du mouvement des Gilets jaunes, il y avait moins de manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Et puis la contestation en Algérie avec l'annonce immédiate des vacances universitaires par le ministère de l'Enseignement. D'abord, en Nouvelle-Galles du Sud, eh bien, la chef de cet État, Gladys Berejiklian, et son homologue travailliste sont aujourd'hui dans l'ouest de Sydney pour lancer leur campagne électorale. Madame Berejiklian a lancé la campagne de la coalition à Penrith, tandis que le dirigeant travailliste Michael Daly est dans la banlieue de Revesby. Un sondage d'opinion a donné au parti travailliste une avance de 2 points sur la coalition à 2 semaines des élections. Et puis le chef du parti travailliste Michael Daly devance Gladys Berejiklian comme chef préféré de Nouvelle-Galles du Sud. La chef de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé un nouveau programme de garde d'enfants pour aider les familles dont les deux parents travaillent.
That's why today, for the first time, I'm proud to announce that by 2021, a Liberals and Nationals government will ensure that every public primary school student in New South Wales can access before and after school care from 7 a.m. to 6 p.m.
Et puis lors d'un débat hier avec Gladys Berejiklian sur ABC Television, Michael Daly a déclaré qu'il pensait que certains politiciens du gouvernement local avaient recours à des tactiques sournoises.
I think that there are some people in the Premier's party who know they can't win clean, so they're going to win dirty, or try to win dirty, and which is why they're creating false Facebook accounts and things like that.
Le porte-parole de l'opposition sur les questions des finances, Jim Chalmers, accuse le gouvernement fédéral qui ne se concentre pas sur les véritables problèmes qui affectent les Australiens ordinaires. Les chiffres publiés la semaine dernière suggèrent que l'économie a ralenti, enregistrant un deuxième trimestre consécutif de régression économique par habitant.
Is that he seems to be entirely out of touch with what's happening to Middle Australia in the economy. And whether it's the per capita recession, whether it's slowing growth, whether it's stagnant wages, whether it's low consumption, low confidence, record debt, all of these things point to an economy which isn't working for ordinary Australians who feel like everything is going up instead of except for their wages.
Le Parti libéral de l'Australie-Occidentale va choisir un candidat pour remplacer l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Julie Bishop, dans la circonscription de Curtin. Une réunion aura lieu ce dimanche. Il y a 3 candidates principales. L'ancienne vice-chancelière de l'Université de Notre-Dame, Celia Hammond, la spécialiste des Affaires étrangères, Erin Watson-Lynn, et la responsable des ressources humaines, Anna Dartnell. La ministre fédérale de l'Industrie de la Défense, Linda Reynolds, a déclaré sur Sky News que le gouvernement ne soutenait aucune candidate en particulier.
It is a matter purely and simply for the pre-selectors in the Curtin division and for the Liberal Party itself. There's always a lot of speculation for high-profile and important seats like Curtin, in fact, for any seat. So I think there's an incredibly strong field, and as you said, there are 4 amazing women who are running for pre-selection, and I know that the pre-selectors today will choose wisely.
La famille d'un Australien détenu au Vietnam demande au gouvernement fédéral d'intensifier ses pressions sur le gouvernement vietnamien pour qu'il accélère le procès. Charles Van Cam, un militant pour la démocratie, a été arrêté il y a près de 2 mois et fait depuis l'objet d'une enquête pour activité présumée contre le gouvernement communiste vietnamien, un crime passible de la peine de mort. Dans sa première interview depuis la détention de son mari, Truong Chau a déclaré qu'elle voulait seulement sa libération.
As a wife, no one wants their husband to go to jail for that long or be sentenced to death. He has a mum who is 95 years old. Every day she asks, when will he come back? But we don't know. I hope he has his freedom as soon as possible.
En France, quelques 28 600 personnes ont participé à l'acte 17 du mouvement des Gilets jaunes, dont 3 000 à Paris selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Reportage de Alexis Bédu pour Radio France Internationale.
Une foule de manifestants clairsemés sur les Champs-Élysées, on est loin des impressionnants rassemblements de décembre. Le mouvement se disloque lentement, explique Patrick, gilet jaune de banlieue parisienne.
Oh, c'est la fin du mouvement. Je pense que ça meurt petit à petit.
Vous venez encore ?
Pour la forme, disons. Franchement, je suis plus convaincu du tout, quoi. Là, je pense que ces gens ne veulent pas rentrer chez eux, quoi. C'est trop d'efforts pour arrêter maintenant.
Rudy, venu de Normandie, est persuadé que le mouvement va perdurer. Selon lui, ce week-end, c'était relâche pour beaucoup de manifestants.
C'est tranquille, c'est surtout le passage des infos pour le week-end prochain. Le week-end prochain, on sera nombreux, je pense. Très nombreux, on aura toutes les régions qui vont se réunir, donc c'est ce qu'il faut, il ne faut rien lâcher.
Cette manifestante est elle aussi confiante. Pour elle, la lutte est moins visible, mais elle est encore là.
En fait, on est en train de créer des réseaux souterrains, que ce soit dans chaque quartier, dans chaque ville, même si on n'est pas là le samedi. Pendant toute la semaine, on fait des réunions. C'est un peu le crocus, c'est remis sous terre pour se reprendre des forces, et ça va partir, mais on est tout à fait prêt à attaquer le printemps et à défiler tout l'été s'il le faut, quoi.
Selon elle, le week-end prochain sera déterminant pour fêter les 4 mois du mouvement. L'idée d'une grande convergence vers Paris circule sur les réseaux sociaux.
La contestation en Algérie contre l'annonce du 5e mandat du président Bouteflika. Le ministère de l'enseignement supérieur a annoncé que les vacances universitaires débuteront ce dimanche et qu'elles vont durer 1 mois. Précision de Leila Berato pour RFI.
Des vacances dès ce dimanche et pour 4 semaines. L'annonce faite ce samedi en début d'après-midi prend tout le monde de court. Étudiants et enseignants dénoncent une tentative de paralyser le mouvement étudiant contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, car les étudiants du pays, ce sont 1 700 000 personnes. Les enseignants, eux, avaient organisé différentes assemblées générales cette semaine, notamment à Alger, sur le campus de Bebzouar. Au fur et à mesure de l'après-midi, les administrations de différentes villes du pays, dont Ouargla, Larouat et Sétif, demandent aux étudiants de quitter leur cité universitaire et provoquent panique et indignation. Très rapidement, des collectifs d'étudiants s'organisent et appellent à tenir des rassemblements ce dimanche dans les universités pour les empêcher de fermer. Des enseignants affirment qu'ils maintiendront leurs cours. Dans la soirée retournement de situation, le responsable des œuvres universitaires finit par annoncer que les cités resteront ouvertes et fonctionnelles jusqu'aux dates initiales des vacances, c'est-à-dire dans 2 semaines.
Au Venezuela, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté hier dans le centre de Caracas. Reportage Benjamin Delisle pour RFI.
C'est un nouveau bras de fer qui a commencé ce matin entre l'opposition vénézuélienne et le gouvernement de Nicolas Maduro. Dès les premières heures du jour, des manifestants de l'opposition ont tenté de gagner l'avenue Victoria, point de ralliement de la marche de l'opposition convoquée par Juan Guaido. Mais les forces de l'ordre les ont stoppés. La police nationale bolivarienne aurait même tenté de disperser le cortège à coups de gaz lacrymogène et aurait confisqué la scène sur laquelle Juan Guaido devait parler à la mi-journée. Dans les autres points de concentration de l'opposition dans la capitale, il y avait une foule plus dispersée que d'habitude, à cause de la grande coupure d'électricité qui paralyse le Venezuela depuis hier. Le métro de Caracas s'est bloqué et beaucoup de Vénézuéliens n'ont pas eu accès aux informations concernant cette manifestation à cause des coupures de courant, d'électricité et d'internet. Sur l'avenue Libertador, ce sont les chavistes qui se sont rassemblés 4 ans, jour pour jour, après le décret de Barack Obama faisant du Venezuela une menace pour les États-Unis, une marche anti-impérialiste donc, dans laquelle les manifestants disent être totalement convaincus par l'explication de Nicolas Maduro sur la panne électrique. Il s'agirait d'un sabotage des États-Unis pour affaiblir une nouvelle fois le gouvernement vénézuélien.
15 personnes ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi dans une discothèque du centre du Mexique. Les forces de l'ordre viennent de lancer une opération de lutte contre les vols de carburant. Explication de Christophe Paget pour RFI.
Tôt samedi matin, un groupe d'hommes lourdement armés a fait irruption dans la discothèque La Playa et tiré sur les clients et les employés avant de prendre la fuite. Les causes de l'attaque sont pour le moment inconnues, mais elle intervient alors que le gouvernement mexicain a lancé, il y a quelques jours, une opération contre le chef présumé du cartel de Santa Rosa de Lima, une ville située à une 30aine de kilomètres à peine de Salamanca. Le cartel est impliqué dans le vol de combustible qui coûte chaque année 3 milliards de dollars à l'entreprise publique Pemex et qui génère de nombreuses violences. violence. Le président López Obrador, qui a pris ses fonctions en décembre dernier, a lancé une vaste offensive contre ces vols. Fin janvier, un véhicule contenant une fausse bombe avait été trouvé à Salamanca avec des pancartes signées par le chef présumé du cartel demandant la libération des personnes arrêtées et le retrait des soldats déployés dans la région, menaçant de s'en prendre aux militaires et aux civils.
La mort du bébé de Shamina Begum, une Britannique de 19 ans qui avait rejoint le groupe djihadiste Daesh en Syrie en 2015, qui avait dit vouloir revenir au Royaume-Uni, mais le gouvernement avait refusé. L'organisation caritative Save the Children affirme que les enfants australiens qui ont été emmenés en Syrie et qui sont maintenant coincés dans des camps de réfugiés devraient être ramenés en Australie et être soignés. Save the Children demande à la ministre des Affaires étrangères, Maryse Payne, et à la porte-parole de l'opposition fédérale, Penny Wong, de s'engager à ramener ses enfants en Australie et d'organiser des procès équitables pour toute personne qui violerait les lois australiennes. Plus de 2500 enfants vivent dans trois camps dans le nord-est de la Syrie, dont des enfants australiens pris dans la violence. La Corée du Nord va-t-elle reprendre ses essais de missiles? Des photos satellites suggèrent que les activités ont repris sur au moins un site clé du programme nucléaire nord-coréen. Explication de Heike Schmidt pour RFI.
Des camions, des véhicules sur rails et deux grues, les photos satellites publiées par la radio américaine NPR montrent que le site Sanumdong est en pleine activité. Sanumdong, c'est là où Pyongyang avait assemblé la plupart de ses missiles balistiques intercontinentaux dans le passé. Cela ressemble à ça lorsque la Corée du Nord construit un missile, estime un expert cité par la radio. Il met toutefois en garde contre des conclusions hâtives, impossible de savoir à ce stade si Pyongyang prépare un missile à des fins militaires ou s'il s'agit d'une fusée pour lancer un satellite civil. Dans les deux cas, Washington a prévenu, tout lancement serait considéré comme une violation des engagements pris par Kim Jong-un. Sanumdong ne semble d'ailleurs pas être le seul site à avoir repris du service. D'autres images satellites montrent que Soae sur la côte ouest est en train d'être reconstruit après un début de démantèlement l'an passé. Hier, Donald Trump a pourtant assuré que sa relation avec Kim Jong-un était toujours très bonne et qu'il serait déçu si le dirigeant nord-coréen relançait ses tests nucléaires.
Un mot de culture pour terminer la 21e édition du Printemps des Poètes. C'est ce week-end en France. La manifestation a été créée, je rappelle, par Jack Lang. Isabelle Chenu, RFI.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu.
Les poètes se chantent et se célèbrent, mais si Charles Trenet a estimé qu'ils ne mourraient jamais, force est de constater que leur influence décline et qu'en librairie, les recueils de poésie ne se vendent pas comme des petits pains. C'est pourquoi chaque année, pendant deux semaines, le Printemps des Poètes propose de mieux faire connaître ce noble genre, considéré à tort comme démodé. Car quoi de plus accessible à chacun qu'un petit texte évocateur et voyageur? Partout en France, une multitude de lieux accueille des lectures, des spectacles, propose quelques heures suspendues hors du temps. Dans les librairies, les bibliothèques, à la radio, dans le métro, les hôpitaux, les jardins, les gares et même les prisons, quelques phrases poétiques nous feront peut-être sourire, réfléchir ou juste suspendre notre course. La poésie, c'est gratuit, riche, léger, émouvant. Cette année, le thème de la beauté sert de fil conducteur aux initiatives. Avis aux amoureux des lettres, des vers et de la prose. L'écrivain Michel Butor, aujourd'hui décédé, regrettait que les poètes ne se soient pas emparés de Twitter, mais le Centre National de la Poésie, qui vit avec son temps, ambitionne de nous faire lire quelques quatrains sur Instagram.
Voilà, et on passe maintenant à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 30 degrés, Adélaïde 27, Melbourne 26 degrés, Hobart 25, Canberra 29, Sydney 29, Brisbane 33, Cairns 31, Darwin 33 et à Alice Springs, un maximal de 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. En Australie, le Premier ministre et le chef de l'opposition fédérale sont à Sydney pour le lancement officiel de la campagne des élections de la Nouvelle-Galles du Sud. En France, acte 17 du mouvement des Gilets jaunes. Il y avait moins de manifestants, selon le ministère de l'Intérieur. Et puis la contestation en Algérie et l'annonce immédiate des vacances universitaires par le ministère de l'Enseignement. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
sbs.com.au